qui a dit, Vayomer Yoshua El Kol Ha'am, Yoshua a parlé à la totalité du peuple et il leur a dit, Ko Amar Hashem Elokei Israël. Ainsi a parlé Hashem, le Dieu d'Israël. Le Ever Anahar Yashua Votechem Meolam. Vos ancêtres résidaient toujours de l'autre côté du fleuve. Qui c'étaient les ancêtres? Terach, Avi Avraham, Avi Nachor. Terach, le père d'Avraham et de Nachor, et aussi de Haran, du père de Sarah et de Lot, mais qui lui est mort dans la fournaise, puisqu'on l'a lui aussi jeté dans la fournaise, mais que lui, il s'en est pas sorti comme s'en était sorti Avraham. Et donc, on nous présente d'abord Mazel Tov, vous avez un nouvel ancêtre, il s'appelle Terach. On ne savait pas, mais bon, c'est comme ça. Certains disent que la raison pour laquelle on parle de Terach, parce qu'on n'a pas voulu dire très clairement qu'Abraham, dans sa jeunesse, évidemment, il était aussi idolâtre, puisqu'il a été élevé dans une famille idolâtre. Alors on a dit, voilà, c'est Terach qui était idolâtre. Et puis ensuite, le texte décrit de façon étrange, « Va'ekach et avichem, j'ai pris votre père, et Abraham, mais Ever Anar, je l'ai pris de l'autre côté du fleuve, Va'olech oto b'chol eretz Kenan, et je l'ai promené, je l'ai fait se déplacer dans tout le pays de Kenan, Varbe et Zaro, j'ai multiplié sa descendance, Va'eten lo et Yitzhak, je lui ai donné Yitzhak, Va'eten le Yitzhak et Yaakov et Esav, et j'ai donné à Yitzhak deux enfants, Yaakov et Esav. Va'eten, et j'ai donné à Esav, et Har Seir, la montagne de Seir, la Rech et Toto, en héritage. En d'autres termes, on a désintéressé Esav pour qu'il n'ait pas une part de l'héritage de Yaakov, de Yitzhak, et que tout l'héritage d'Yitzhak aille à Yaakov. Mais quel est cet héritage? Alors, écoutez bien. L'héritage en question, c'est le Yaakov Uvanav Yardou Mitzrayim. L'héritage, ça consiste à descendre en Égypte. Et alors, on peut dire, voilà, ce petit morceau-là qui nous parle de quelque chose d'aussi fondamental, qui est de la sortie de l'idolâtrie, qui évidemment n'est pas directement notre sujet, puis notre sujet, c'est la sortie d'Égypte, c'est présenté comme la sortie de l'esclavage et pas la sortie de l'idolâtrie, même si, effectivement, en Égypte, les Bnei Israël étaient idolâtres. Mais on va revenir là-dessus. En tout cas, c'est présenté comme ça, mais ça a l'avantage, ce petit texte-là, il fait le lien avec le début du texte précédent. Le texte précédent, il commence « Avadim haïnou le pharaon ben Israël ». Qu'est-ce qu'on faisait en Égypte? On est égyptien. D'où on vient? Qu'est-ce qui s'est, comment on a pu être esclave de Pharaon en Égypte? Est-ce que Pharaon il a fait une guerre et nous on était dans un pays et il nous a exilés ou de quoi on parle? Alors ici, notre texte, il fait le lien. Il dit voilà, ça a commencé avec Abraham et finalement, c'est Yaakov qui est descendu en Égypte. Alors il n'est pas descendu de son vivant, il n'y avait pas d'esclavage évidemment. Il est descendu en Égypte, à son corps défendant d'ailleurs, comme on va le dire, et il est descendu, et puis avec le temps, ça s'est aggravé pour les Bnei Israël, et les Bnei Israël ont été réduits en esclavage. Donc on a l'avantage d'avoir avec ce texte sur l'idolâtrie ici, de faire le lien entre Abraham et la sortie d'Égypte. Sinon, il n'y a pas de lien. Sinon, ça, de but en blanc, comme ça on nous parle, de tout à coup, on est sorti d'Égypte, on ne sait même pas comment on y était, comment on est arrivé. Il y a pas de... Alors ici, on nous dit comment on y est arrivé. Je voudrais poser une question. Telle que c'est présenté de cette manière-là, on a l'impression que ce qui précède l'esclavage, c'est la sortie de le récit de la sortie de l'idolâtrie. Et donc, on a l'impression ici, dans ce texte, que quand on sort de l'idolâtrie, eh bien, on arrive dans l'esclavage. Et donc, la question, on est sorti de l'idolâtrie, La sortie de l'idolâtrie, c'est quoi? C'est Yaakov qui va descendre en Égypte et on va se trouver en esclavage. Comme s'il y avait une continuité, si vous voulez. Sortir de l'idolâtrie, ça passe par une période d'esclavage. Pourquoi on ne peut pas sortir de l'idolâtrie simplement, directement, et se retrouver libre? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je voulais juste que vous réfléchissiez à ça aussi, peut-être que vous avez une idée. C'est comme si, quand on était idolâtre, on est idolâtre, on a plusieurs maîtres. Hein, toutes ces idoles qui sont les maîtres. Mais ces maîtres-là ne sont pas du même monde que l'homme idolâtre. Il y a les idoles qui sont dans le monde des idoles, et puis c'est un monde qui a un impact sur le monde de l'homme dans lequel l'homme se trouve. Ils sont à l'extérieur. Et quand on coupe, on aurait pu imaginer, ok, on peut très bien passer d'une période d'idolâtrie avec polythéisme, on aurait pu passer d'un polythéisme à un monothéisme, idolâtre évidemment, comme c'était le cas comme c'était le cas avec le prédécesseur du paro de l'Exode, qui lui était visiblement un monothéiste idolâtre. Sa différence, c'est que du coup, le maître, au lieu d'être dans un autre monde, il descend dans ce monde-ci, et les gens se retrouvent avec non pas un dieu qui les dirige, mais un maître qui les dirige et qui leur impose toutes sortes de choses. Et donc, comme si on avait une haute sphère vers la sphère de l'homme, mais on a toujours cette structure des maîtres, et le reste du peuple est esclave, comme avant il y avait les idoles, et le peuple était esclave de ces idoles en quelque sorte. Et le passage, il n'est pas très difficile à faire. Paro, c'est vrai qu'il était le maître des sujets qui étaient ses esclaves, mais il était aussi une divinité, Paro. Donc, si vous voulez, on voit bien que celui qui est, dans notre cas ici, celui qui est le maître est aussi une idole. Donc, simplement que, voilà, c'est une idole qui s'est incarnée, en fait, qui est dans ce monde-ci, qui appartient à ce monde. Une idole qui est revenue dans ce monde-là, et qui maintenant a donc des gens qui lui doivent tout, donc qui lui doivent obéissance, etc. Enfin, c'est l'esclavage. Alors je ne sais pas jusqu'où on peut réfléchir dans cette direction-là, mais le texte a l'air d'indiquer quelque chose de ce genre-là. C'est-à-dire que l'esclavage et l'idolâtrie, c'est pas deux éléments complètement différents, et que c'est comme si l'esclavage c'était une forme d'idolâtrie avec incarnation dans ce monde-ci de l'idole, quoi, en quelque sorte. Alors évidemment, ça ouvre des horizons parce que alors on comprend un peu le christianisme, les choses comme ça. C'est d'accord, si vous avez une incarnation de l'idole, en fait, enfin, de chose comme une idole qui appartient aussi à ce monde-là. Cette espèce de mélange-là. Bon, c'est une question sur laquelle je vous invite à réfléchir. Si vous avez quelque chose à en dire tout de suite, je vous écoute. OK. Bien. Alors, ceci étant, on remercie immédiatement HaKadosh Baruch Hu qui nous a sortis, on revient à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire à la sortie de l'esclavage. Et justement, puisqu'on a mentionné Abraham, on parle de, on mentionne en même temps la promesse qu'Hachem avait faite à Abraham concernant son peuple. Et on dit, Akadosh Baruch Hu, Hishev et Haketz. Akadosh Baruch Hu, il a arrangé les choses pour que les 400 ans dans lesquels on devait être en Égypte, éventuellement esclave, que ces 400 ans, quelque part, voilà, soient ils pouvaient être considérés comme ayant déjà eu lieu, à savoir si on compte les 400 ans à partir de la naissance de Yitzhak, les 400 ans. Et donc, si on dit comme ça, alors l'Égypte, la période égyptienne, met un terme à ces 400 ans. Mais si on dit, et si on n'a pas le mérite en quelque sorte, qu'Hachem valide les années d'Yitzhak, depuis Yitzhak jusqu'en Égypte, comme étant les années étant incluses dans les 400 ans, alors les 400 ans, ils ne sont pas terminés avec la période égyptienne, donc on est sorti prématurément, et donc il va falloir compléter par la suite ces 400 ans, et sous la forme des divers exils qui vont suivre dans l'histoire. Et justement, ça c'était une discussion entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu voulait absolument qu'Hachem donne au Bnei Israël la force de résister encore suffisamment de temps, encore 190 ans pour compléter les 210 ans d'Égypte, et qu'on n'ait pas plus besoin d'autres galouillotes. Mais Hachem, quand il lui a donné son nom, il lui a dit que « Eke Asher Eke, je serai avec eux, dis-leur, je serai avec eux dans les exils à venir, comme je suis avec eux dans cet exil-là. » Moshe Rabbeinu a dit « Mais je ne peux pas leur dire une chose pareille. Si je viens leur vendre que on va sortir d'Égypte, mais rassurez-vous, on aura d'autres exils. » D'accord, ça n'a pas de sens. Et du coup, Hachem a dit une drôle de chose. Il lui a dit, bon, alors dis-leur seulement la moitié. Dis-leur seulement que je suis avec eux dans cet exil. C'est une chose fondamentale, mais c'est pas du tout. Et donc, ça veut, d'une certaine manière, Moshe Rabbeinu n'a pas obtenu d'Hachem. Hachem se rallie à son idée et Hachem nous a fait sortir prématurément. C'est-à-dire, en fait, il nous a pas donné le bénéfice des années depuis Yitzhak jusqu'à l'Égypte pour qu'elle compte dans les 400 ans. Mais bon, néanmoins, Hachem a accompli cette promesse et ensuite, dans la promesse en question, dans la promesse, je vous rappelle, c'est la promesse qui a eu lieu à Brit Ben Abtarim, l'alliance entre les morceaux, où Hachem a dit à Avraham Avinu que ok, tu choisis l'exil pour ton peuple, ça veut dire plutôt que la mort, plutôt que d'avoir un peuple qui est une civilisation comme les autres, mortelle, etc. Bon, tu choisis ça, eh bien tes enfants vont être ils vont être exilés, ils vont être réduits en esclavage, on va les faire souffrir pendant ces 400 ans là. Mais il y a deux choses. Kam et Agoy, Asher Yavodu Don Anochi. Mais le peuple qui les réduit en esclavage, je vais le juger. Et une deuxième chose. Et ensuite, Yetsu Birchush Gadol. Les Bnei Israël vont sortir avec un grand butin. Alors d'abord le problème de Kam et Agoy, Asher Yavodu Don Anochi. Les Égyptiens ont été jugés et punis, et la punition, c'est la disparition de l'armée égyptienne dans le passage de la mer. Et donc, quasiment, l'Égypte qui a périclité, d'une certaine manière, après le départ des Bnei Israël. Les Bnei Israël ont donc vu l'application de la justice divine. Et ça, c'est un privilège, parce que nous savons qu'il y a une justice divine. Mais quand on est devant une injustice dans ce monde-ci, et qu'on ne voit pas la justice divine s'appliquer. Alors bien sûr, notre Emouna nous dit, ben, un jour, même l'Altid Lavo, pas ou avant peut-être, mais il y aura effectivement application de la justice divine. Seulement, chez nous, c'est Emouna. Mais les Bnei Israël ont eu ce privilège, à la naissance du clan Israël, ils ont le privilège de voir la justice divine s'appliquer. Ça, c'est un grand privilège. Ils ont vu que Hachem a jugé les Égyptiens. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est ce fameux Rouch Gadol, ce fameux butin. Alors là, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est quoi ce butin? Ce butin, il est présenté comme une espèce de compensation pour l'esclavage. Vous allez être en esclavage, mais après, vous allez sortir avec un grand butin. Quel butin peut vraiment apaiser les Bnei Israël qui ont passé par cette période de 86 ans d'esclavage atroce, inhumain et tout ce que vous voulez? On les a tués, on a essayé de les tuer, etc. Comment imaginer qu'il y a un butin, autant que butin, a priori, ça s'entend comme si c'était quelque chose de matériel, quel butin pourrait bien être une compensation acceptable, sans que ça soit une injure, quasiment de présenter ça comme une compensation. D'accord. Quel butin peut être considéré comme effectivement une espèce de compensation pour ce qui s'est passé? C'est incompréhensible. Totalement incompréhensible. Et à part ça, cette idée de ce rechouche gadol, il va jouer un rôle très très important. Alors, je vais d'abord vous... Je le trouve là. Je voulais un morceau de l'Agmara dans Sota. L'Agmara Sota du Yud Aleph Amud Bet. Elle dit la chose suivante. C'est bien connu que le rôle des femmes dans cette Géoula a été absolument fondamental. Et la Gemara dit la chose suivante. Darash Rav Avira. Écoutez bien. Bishar Nashim Tzadkaniot Shayu Beoto Ador Nigalu Israël Mimitzrayim. Par le salaire, le shar, le salaire des femmes Tzadkaniot, des femmes, il y avait parmi elles, dans cette génération-là, il y avait des femmes extraordinaires, Tzadkaniot, des justes, Tzadikim, quoi. Par leur salaire, ça a été, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. C'est intéressant. C'est un salaire. C'est leur salaire. Mais Hachem avait... C'est assez compliqué à comprendre. Je viens de vous raconter, Akadosh Baruch Hu avait dit à Avraham Avinu que après, ils allaient sortir. Hachem allait les sortir. Alors, comment ça se fait que ça s'appelle « c'est un sahar » Ça veut dire que quand il y a une promesse divine, elle peut se réaliser de toutes sortes de manières. La sortie d'Égypte, le point très important dans cette sortie d'Égypte, c'est que c'est ce qu'on appelle « itaharuta de leila ». C'est-à-dire, c'est le langage des Sfarim. Les Sfarim, ils parlent d'Itaruta Leila. Ils veulent dire, c'est l'éveil d'en haut. C'est-à-dire, les Bnei Israël, en vérité, ils n'ont rien fait. Ils n'avaient même pas de mérite pour sortir d'Égypte. Pas de mérite. Le clan Israël n'avait pas de mérite pour sortir d'Égypte. Donc, c'est Hachem qui a tout fait. Quelque part. Donc, c'est une naissance dans laquelle l'enfant en question, il n'a rien fait pour naître. Absolument rien. C'est Hachem qui a tout fait. Et avec le temps qui va passer, l'évolution du clan Israël, le clan Israël va être appelé à se prendre un peu en main, à faire quelque chose et pas à rester toujours dans cette posture où c'est Hachem qui fait tout. Mais là, on nous dit que ce qui a fait en sorte que les Bnei Israël ont été libérés de l'Égypte, c'est un salaire que les femmes ont obtenu par leur travail, en fait. Donc, ça veut dire que le clan d'Israël en lui-même, il n'avait pas de mérite. Mais il y a des femmes qui ont c'est même pas dit en termes de mérite, c'est en termes de salaire, c'est très fort. C'est un salaire. Alors, un salaire, a priori, c'est la résultante d'un travail. Quel était le travail, dit la Gemara? La Gemara dit comme ça. Sha'a she'olchot lishov ma'im. Les hommes et les femmes avaient des tâches. Souvent, on leur faisait faire les tâches les uns par les autres pour les humilier, etc. Mais les femmes avaient dans leur tâche d'aller puiser de l'eau. Et alors, elles vont puiser de l'eau. Akadosh Baruch Hu mazmin lahem dagim ktanim bekadehen. Elles vont avec leur seau, elles puisent de l'eau, et Hachem fait en sorte que dans cette eau-là, il y a des petits poissons. Elles ne sont pas allées pêcher, elles sont allées puiser de l'eau. Et elles puisent cette eau, et elles ont 50% d'eau, 50% de poissons. Ensuite, elles rentrent, elles mettent deux marmites à chauffer. Une marmite pour chauffer l'eau et une marmite pour chauffer, pour cuire les poissons. Ensuite, elles amènent tout ça auprès de leurs maris qui, eux, sont dans les champs. Parce que on est à un moment de l'esclavage où les Égyptiens, parce que il voulait essayer de restreindre l'explosion démographique des Bnei Israël. Alors, ils ont interdit aux Bnei Israël de rentrer chez eux. Ils pensaient que s'ils ne rentrent pas chez eux, il n'y aurait plus d'enfants, il n'y aurait pas de relation conjugale et il n'y aurait plus d'enfants. Et donc, on va mettre un terme à l'explosion démographique des Bnei Israël. Donc, ils ne pouvaient pas rentrer. Donc, les femmes sont allées dans les champs, sur les chantiers, donc là où ils travaillent, là où les hommes. Marhitzototan, ils ont commencé par l'eau chaude, et ça, ils ont lavé leur mari. Rachidi, ils ont lavé les pieds. Marhilinotan, elles ont donné à manger ces fameux poissons. Mashkototan, ils leur ont donné à boire. Veniskakok, la haine, ben svataim. Et elles ont eu une relation conjugale dans les remblais, littéralement. Elles sont cachées dans les buissons, etc. Elles ont dû faire ça à l'extérieur, comme des animaux qui font ça à l'extérieur, qui n'ont pas le choix. Ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Mais elles ont pris sur eux cette chose qui était un peu éventuellement dégradante pour elles. Et il y a un verset dans Tehilim où David Ameler dit effectivement « Im tishkevun ben svataim » le fait que vous êtes couché dans les remblais en quelque sorte « Alors kanfei yona nepar bekesef vevrotea virakrak harutz » c'est-à-dire il y aura un salaire gigantesque. Bisrar, par le salaire de « vous êtes couché dans les remblais, Zahou Israël, alors bon, on a l'impression qu'on a dit, le texte il a commencé, les Bnei Israël, les filles en question, les femmes en question, elles ont eu un salaire, et par ce salaire, Nigalou Israël Mim Israël. Donc on a l'impression qu'on est en train de décrire la façon dont elles ont gagné le salaire en question. Et qu'est-ce qu'on nous dit à la fin? On dit, par le salaire d'avoir eu ces rapports avec leur mari dans les remblais, Zahou Israël, les Bizat Mitzrayim. Ils ont été zochés quoi? Le butin d'Égypte. Mais tu as commencé par me dire que le salaire, c'était de sortir d'Égypte. tous les blessés sont sortis grâce à elles. Et maintenant, on dit que par ce qu'elles ont fait, on montre ce qu'elles ont fait pour ça, on s'attend que c'est ça qui a fait qu'on est sorti d'Égypte. Pas du tout. La Gemara termine par dire on a eu Bizatam Mitzrayim, le butin de l'Égypte. Mais le butin de l'Égypte, c'est pas du tout pour ça qu'on l'a eu. Le butin de l'Égypte, c'est écrit dans la Torah. Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de demander aux Israël de bien vouloir emprunter, vous vous souvenez, il faut emprunter des kelim, des ustensiles d'argent et d'or auprès des voisins, des voisines, etc. Et ça, c'est ça le fameux butin, le rechouche gadol, puisqu'à ce moment-là, c'est présenté comme une demande d'Hachem pour que Hachem puisse ainsi accomplir la promesse qu'il a faite à Abraham Avinu, ce qui en soi pose aussi des problèmes. Mais ici, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a eu une mesirut nefesh de la femme de la part de ces femmes, mais tout à coup, maintenant, au lieu de nous dire ce par quoi on a commencé par parler du fait que, voilà, grâce à elle, on a été libéré. Et après, on dit, mais que grâce à elle, qu'est-ce qu'on a eu? Bizat Mitzrayim. On comprend bien qu'il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Voilà. Elles ont fait ces choses absolument extraordinaires. Qu'est-ce qu'elles ont gagné? Le butin de l'Égypte. Tu veux quelque chose?
Non, je ne savais pas
bien. Un instant. Oui, du?
Je m'excuse.
Tout à coup, elles ont le butin. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a aussi... Alors, et ça reste... Alors, c'est le salaire de quoi qui a amené la libération d'Ibné Israël? Puisque le salaire, là, qu'on nous a décrit, il a amené Bizat Mitzrayim, il a amené le butin, il n'a pas amené la libération. Donc, visiblement, les Chazal dans la Gemara ici, ils sont en train de nous dire quelque chose de très important, justement sur ce fameux rechouche, ce fameux butin qu'Hachem a promis aux descendants d'Abraham. Le butin, c'était en fait ce pourquoi les Bnei Israël ont été envoyés en galoute. La question de savoir pourquoi les Bnei Israël sont en exil, c'est surtout l'exil, peut-être pas tellement l'esclavage, mais bon, l'esclavage, c'est une dureté de l'exil, c'est une modalité de l'exil. Il y a eu des exils qui n'étaient pas des exils d'esclavage, etc. Il y a eu des endroits où il y a encore aujourd'hui certaines personnes qui vivent le galout dans lequel on est, comme un sweet galout, ça veut dire un galout léger, agréable, etc. Alors, le but de l'exercice, c'était quoi exactement? C'est quoi le but de ces exils en réalité? Qu'est-ce que c'est exactement? La première mention d'un galout en Égypte, c'est en fait le galout d'Abraham. Quand Abraham a fui la famine en Égypte, qu'il est descendu avec Sarah en Égypte, il était exilé, il était sur la terre qu'Hachem lui avait promise. Bon, Hachem lui promet une terre et la première chose qui se passe, c'est qu'il y a une famine et donc Abraham juge qu'il doit descendre en Égypte, il doit partir pour là, pour ça. Et le Ramban dit clairement que la raison pour laquelle on a été esclave en Égypte, c'est à cause d'Abraham. En quelque sorte, Abraham qui a fabriqué, il a pavé le chemin pour descendre en Égypte. Et Abraham, à ce moment-là, quand il est descendu en Égypte, et puis il a eu les problèmes avec Sarah, et que Hachem a frappé Paro avec des plaies, la plaie de Negaïm, et puis Abraham est ressorti d'Égypte avec un grand butin. Donc ce schéma-là, descente en Égypte, souffrance, jugement de ceux qui l'ont fait souffrir, et sortir avec un grand butin, ce schéma-là, on connaît, il a déjà existé, toujours ce même principe, de Maase Avot Siman Labanim, que ce qui s'est passé avec les patriarches, c'est une indication sur ce qui va se passer avec les descendants de ces patriarches. Mais au fond, c'est quoi en réalité? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il faut aller en exil? C'est quoi cette nécessité d'aller en exil? Quand Abraham Avinu est sorti de l'Égypte dans laquelle il était descendu avec Sarah, il est sorti avec des troupeaux, il est sorti avec des richesses, etc. Exactement la situation des Israël qui sortent d'Égypte maintenant. Donc ça veut dire que cette notion d'exil, elle joue un rôle fondamental. Comme si, au fond, le clan Israël, en tout cas sa richesse, elle vient du travail des autres, en fait. Bon, c'est Paro qui lui donne. Paro, c'est l'Égypte qui nous a donné. Alors, ça peut apparaître comme un salaire, mais quelque part, c'est toujours produit par les autres, en fait. Il y a quelque chose qui est chez les autres et dont nous avons besoin, en fait. Et donc, quand il s'agit d'un salaire pour un travail qui a été fait dans le cadre de l'exil, alors ce qu'on reçoit, c'est bien sûr, ce sont des biens matériels, mais ces biens matériels, eux, sont bien plus que des biens matériels. Il faut donner la référence standard, c'est la suivante. Et ça fait partie du processus de la création qu'il y a eu ce qu'on appelle l'éclatement des vases. Il y a eu une situation dans laquelle, disons-le grossièrement, il y a eu de la lumière, de l'énergie, qui a été mise dans des vases qui finalement n'ont pas été capables de contenir cette énergie et cette lumière. Et ça a explosé. Et donc, il y a eu des étincelles de lumière, d'énergie, qui sont parties dans le monde. Et donc, voilà, ces étincelles, elles ont atterri un peu n'importe où. Ils ont atterri chez tous les peuples. Il y a donc de ces étincelles chez tous les peuples. Pour cette lumière-là, elle est fondamentale. Il faut, le travail du clan Israël, c'est justement de récupérer toute cette lumière-là, réunifier tout ça, réunir tout ça, et mettre tout ça au service d'Hachem. Et comment on va chercher les étincelles qui sont chez les différents peuples, étant donné que ces étincelles, qui sont quelque chose d'être extrêmement précieux, elles sont en quelque sorte enrobées de la touma de chacun des peuples. Elles sont dans la culture spécifique de chacun des peuples. Et ça leur donne de l'énergie, d'ailleurs. Et comment on fait pour aller les chercher? Alors, la théorie en question, elle dit que les Bnei Israël ne peuvent pas aller les chercher. Parce qu'il faudrait se confronter à la touma spécifique de ces peuples. Alors, on peut aller se rapprocher de ces peuples, mais on ne peut pas entrer dans la touma spécifique. Ça nous ferait trop de mal, on n'est pas équipé pour cela. Les seules personnes qui peuvent aller chercher tout ça, ce sont les autochtones, ce sont les gens qui sont nés là-bas, qui, eux, ont l'habitude de fréquenter ces lieux-là et qui vont aller chercher et qui peuvent aller chercher ces étincelles-là. Et quand ces personnes-là vont se convertir, elles vont entrer dans le clan d'Israël avec les étincelles en question et donc elles vont ramener les étincelles dans le clan d'Israël. Et donc, Chazal disent, les Bnei Israël n'ont été exilés que pour qu'il y ait des guérim. Parce que par le biais des guérim, les étincelles reviennent dans le clan d'Israël. C'est fondamental. C'est comme ça que ça marche en quelque sorte. C'est spécialement l'humanité qui devait travailler pour Hachem. Maintenant qu'eux ne travaillent pas pour Hachem, il va falloir prendre ceux qu'ils ne font pas, ils ne font pas le travail. Le seul moyen, c'est que il y ait des gens qui se convertissent. Pour que les gens se convertissent, il faut qu'ils viennent en contact avec des Bnei Israël. Donc il faut que les Bnei Israël aillent chez eux, entrent en contact avec eux, et que ces gens-là, qui eux sont capables, et sont les seuls capables d'aller extraire ces étincelles, le fassent et ramènent ces étincelles à l'arrêt. Et donc, le fameux butin avec lequel les Bnei Israël vont sortir, c'est l'Égypte, c'était quand même la grande puissance dominante, etc., même intellectuellement, etc. Et donc, il y avait là-bas beaucoup, beaucoup d'étincelles, énormément d'étincelles. Et il fallait aller les sortir. Et les Bnei Israël, à ce moment-là, ils ne sont pas encore Bnei Israël, bien sûr. Ils sont Bnei Noach, à ce moment-là. Donc, les Bnei Israël étaient capables. Ils sont à ce point suffisamment égyptiens pour pouvoir ramener, parce qu'au fond, c'est eux-mêmes qui sont les convertis. N'est-ce pas? Tout le peuple juif s'est converti au pied du Sinaï. Donc, ils n'étaient pas encore convertis à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, ils étaient capables de ramener les étincelles. Et Chazal disent que pourquoi les Bnei Israël n'ont plus le droit de retourner en Égypte? Parce qu'il n'y a plus rien à ramener de là-bas. Parce qu'on a toutes les étincelles qu'on pouvait ramener de là-bas, on les a ramenées. Chazal donne comme exemple. Quand les Bnei Israël sont sortis de Mitzrayim, c'est comme si quelqu'un avait pris tous les poissons qui étaient dans la nasse, il ne reste plus un poisson dans la nasse. Bon, là, mais il n'y a plus de poissons. Bien, les Bnei Israël, ils ont pris tout ce qu'on peut, toutes les étincelles. Quelle qu'ait été la forme de ces étincelles, avec toutes sortes de problèmes, peut-être qu'il y avait encore un peu trop de gangs ou etc. autour de ces étincelles qui ont fait que l'Israël voulait toujours retourner en Égypte, etc. Alors qu'il n'y avait plus de raison d'y retourner, aucune raison d'y retourner, parce que on avait pris tout ce qu'on pouvait prendre, tout ce qu'il y avait à prendre en fait. Et donc le butin, c'est ça. Le butin, ce sont les fameuses étincelles. Alors, on peut le dire de cette façon-là, j'avais proposé de le dire un petit peu différemment, Je rappelle juste parce que je pense que vous l'avez déjà un peu entendu. Moi, je pensais que le butin en question, c'est que les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis en ayant établi entre eux des relations. Vous vous souvenez, cette histoire, je voulais remettre en même temps ce qu'on vient de dire ici sur les femmes, etc., et ce qui, la demande qu'Hachem m'avait faite, demande au Bnei Israël d'emprunter. Je vous avais fait remarquer que dans le texte, c'est marqué qu'un juif, tous les Hébreux, ils devaient emprunter auprès de leurs voisins. Mais c'est pas marqué voisin, c'est marqué réa. Réacha, c'est le même mot qu'il y a dans tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le réacha comme kamocha. Et le Gaon de Vilna dit que nulle part dans la Torah, le réa, ça peut être un goy. Donc c'est pas possible de lire dans le texte qu'il faut emprunter auprès des goy. Puisque c'est dit en termes de tu emprunteras auprès de ton réa, de ton prochain. Ou de ta prochaine. Et donc, on doit dire, d'après le Gaon, que le but de l'exercice, c'était, étant donné que les Bnei Israël, en cet état d'esclavage, ils en étaient à chercher leur souffle, du coup, il n'y avait pas de relation entre les gens. Quand on est à chercher son souffle, tu n'as pas le temps de t'occuper de l'autre. Donc, chacun était en train de survivre. Il y a probablement quelques personnes qui l'ont fait, mais ce qu'Hachem voulait, c'est qu'il y ait de vraies relations. Parce que s'il n'y a pas un peu de relations, alors il n'y a pas de peuple. Des individus, il n'y a aucune raison de les sortir d'Égypte. Il faut sortir celui qui va devenir le peuple d'Hachem. Il faut un embryon de peuple pour sortir. Et cet embryon de peuple, il existe sous forme de des individus qui ont entre eux des relations. Et Akadosh Baruch Hu a donc demandé, donc là aussi c'est Itaruta de Leila, c'est toujours Hachem qui demande, il leur dit ce qu'il faut faire, et bien voilà, vous allez commencer à fabriquer des relations entre vous. On parle de l'or et l'argent des Égyptiens, et les Égyptiens quand ils ont vu que cette société-là, cet embryon de société avec des mini-relations entre les gens, ça rendait la société beaucoup plus agréable. Bien, les Égyptiens ont dit, ben, nous aussi, on veut en être. Et eux aussi, ils ont prêté, emprunté, etc. Et eux, ils avaient plus d'or et d'argent. Et au bout d'un moment, c'est resté chez les Bnei Israël avec le problème dont on a déjà parlé en son temps, de qu'est-ce qui se passe avec ce... Comment se fait-il que le clan Israël se construise avec quelque chose qui leur a été donné par les Égyptiens? Mais en réalité, ce que... Ces vases d'or et d'argent, etc., c'est des éléments qui contiennent justement ces fameuses étincelles. Dans l'or et l'argent égyptien, il y avait les étincelles en quelque sorte. Donc c'est comme ça qu'ils sont de cette manière-là que les étincelles sont revenues, en plus de ce qu'elles sont revenues avec tous les Bnei Israël qui étaient tous des guérims, donc qui vont devenir tous des guérims. Mais qui, à ce moment-là, étaient capables, eux, d'aller chercher les étincelles en question. Donc, c'est ça le fameux butin. Et alors, du coup, on est obligé de se dire que quand on dit que par le salaire des femmes, des tsadkaniotes, qui ont fait ce travail qui était en fait, c'était quoi le travail en question? C'était faire en sorte qu'il y ait un peuple. D'accord? Il n'y avait plus personne. Les hommes étaient complètement fourbus, complètement sans aucune énergie. Et ce sont les femmes qui sont allées leur redonner de l'énergie, et puis aller se parer avec des miroirs, toute l'histoire des miroirs, etc., pour séduire leurs propres maris et pour les obliger quasiment à avoir des relations avec elles et d'assurer ainsi la pérennité du clan Israël, fabriquer le clan Israël, parce que sinon il allait mourir, ce clan Israël, s'il n'y a plus d'enfants. S'il n'y a plus personne, ils vont mourir. Tous ceux qui vont naître là, ils vont être réduits en esclavage, il n'y a plus personne. Et donc, leur salaire, justement, bon, c'est ça l'idée, ça a ouvert un accès à la bizat, au trésor de l'Égypte. Le salaire, c'est-à-dire, c'est le même principe. Elles ont fabriqué des relations avec, conjugales, en l'occurrence. Là, on en était réduit à ne pas avoir de relations conjugales dans le clan d'Israël. Alors, l'empreinte des Kélim, c'est qu'il n'y avait pas de relation du tout entre les uns et les autres. Elles ont vérifié que c'est encore plus fondamental qu'il y ait d'abord des relations conjugales, d'abord qu'il y ait une relation entre les hommes et les femmes dans le clan d'Israël pour fabriquer l'Ebné Israël, puis ensuite faire en sorte qu'ils aient des relations. Tout ça, c'est le même processus. Et c'est ça, la Bizat Mitzrayim. Grâce à ça, on a, ou bien on peut le dire en termes d'étincelles, ou bien on peut dire, on a un embryon de peuple qui sort d'Égypte. Et cet embryon de peuple, c'est ça le trésor de l'Égypte qu'ils ont pris. Grâce à eux, au sortir de l'Égypte, à cause de cet esclavage qui était insupportable, malgré cet esclavage qui était insupportable, pardon, ils ont réussi, ces femmes ont réussi à assurer un peuple. C'est pas encore un peuple, mais un embryon de peuple, puisqu'on est devenu un peuple seulement au pied du Sinaï. Mais pour sortir, il fallait qu'il y ait quelqu'un. Il n'y avait personne à sortir. Donc, me semble-t-il, c'est ça le rouge, et c'est pour ça que cette notion de rouge joue un rôle absolument fondamental, parce que le rouge, c'est l'existence possible du clan d'Israël, l'existence possible d'un peuple. En d'autres termes, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui sont descendus en Égypte, c'est une famille. Une famille qui n'était pas très nombreuse, d'ailleurs. Mais cette famille-là, elle a éclaté, au sens, ça a explosé plutôt qu'éclaté, ça a explosé, il y avait énormément de monde, mais les Égyptiens ont fait en sorte, en les réduisant à l'esclavage, que ça ne devienne pas, que ces relations se distantent complètement. Parce que le peuple, il est pas, on n'est pas un peuple parce qu'on est issu de Yaakov. On est bien appelé Bnei Israël, Bnei Yaakov. Mais on n'est pas, c'est pas pour ça qu'on est un peuple. On est un peuple parce qu'on converge tous vers la même chose. On a un point de convergence. C'est que Hachem est Echad. Donc, si vous voulez, c'est pas notre divergence à partir d'un point qui crée notre lien, mais c'est notre convergence vers un point. C'est ça que les enfants de Jacob ont dit à leur père. Shema Israël, lui, il leur dit, mais je suis complètement raté, je devais fabriquer un peuple. Oui, mais ils lui ont dit, mais non, tu ne devais pas fabriquer un peuple qui ne serait le peuple que parce que nous sommes tous issus de toi. Parce que ça, c'est, si vous voulez, c'est bon, ce que je ramène tout le temps, mais tout ça, c'est de l'inné. Et l'inné n'a aucune valeur de ce point de vue-là. L'acquis, c'est de construire des relations. C'est-à-dire fabriquer ce point de convergence et construire donc des relations complètes qui ne soient pas des relations familiales. Parce que même les relations conjugales ne sont pas des relations familiales. C'est conjugal aux étrangers, on les met ensemble. C'est pas, il n'épouse pas sa sœur ou son frère. Donc c'est ça le... me semble-t-il, le fameux butin et la construction qui s'est faite ainsi en Égypte. Alors ensuite, on a dit que voilà, il y a eu cette promesse d'Hachem, et c'est cette promesse-là d'Hachem qui a été faite là, votez-nous, Vishyamda là, votez-nous. Mais la promesse, elle était aussi... Elle a tenu aussi, elle nous a tenu, nous aussi, là, nous. Parce que, chez le Echad Bilvad, il n'y a pas eu qu'un seul bonhomme, en sous-entendu, il n'y a pas eu que Paro, qui s'est levé pour nous détruire. Mais dans chaque génération, il y a des gens qui se lèvent pour nous détruire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette promesse qu'Hachem a faite, Akadosh Baruch Hu Matsilenu Miyadam. Hachem nous sauve de ça. Alors, des fois, il nous sauve sans, comme à Purim, avec une solution finale, zéro mort. Et des fois, malheureusement, on ne mérite pas ça et la solution finale n'est pas avec zéro mort, au contraire. Mais il nous a sauvés. Bon, c'était parti pour détruire complètement l'Israël. Israël. Beaucoup a fait en sorte quand même qu'il ne soit pas arrivé à ses fins. Alors, on a dit que dans chaque génération, alors, mais ne t'imagine pas que les chaque génération, ça commence avec Paro. C'est Ulmad. Ça a commencé bien plus tôt. Lavan lui-même, il a voulu tuer Yaakov. Il voulait tout tuer. La Tachol. D'ailleurs, quand il rattrape Yaakov, Lavan lui dit, qu'est-ce que c'est? Tout est à moi. Les filles, tes femmes sont mes filles. Tes petits-enfants, c'est mes enfants, mes petits-enfants. Tes enfants, c'est mes petits-enfants. Tes biens, c'est les miens. Tu as gagné ça en travaillant pour moi. Tout est à moi ici. Donc, c'est une négation complète de Yaakov. Tu n'existes même pas. C'est moi. Et il dit, Yesh le Eliado, je pourrais te faire du mal. Seulement un chemin interdit. Je ne le fais pas parce que ça m'est interdit. C'est paradoxal. Je pourrais te faire du mal alors que Hachem vient de lui interdire. Alors il a voulu, effectivement. Et Yaakov, finalement, il est descendu en Égypte, très peu nombreux. Et là-bas, il est devenu un peuple, un énorme peuple, très très puissant et très nombreux. Et alors, le texte de la Haggadah va faire une drachot sur ce texte-là. On est Doresh, le Arami Ovedavi, mais Doresh, bon, vous connaissez toutes ces drachotes. Finalement, donc, Kadosh Baruch Hu nous a sorti, il y a un moment donné où mais Doresh, le Pasuk va nitsa que l'Hachem Elokei Avinu que Moshe Neymar. Nous avons crié vers Hachem notre Dieu, vers Hachem, le Dieu de nos ancêtres, comme il est dit. Et il apporte un pasouk. Et si vous regardez le pasouk en question, ce pasouk, il est dans le deuxième chapitre, le 23e verset, le Shemot donc. C'est marqué, Vaihi, écoutez bien, Vaihi, Vayamim, Arabim, Haem. Et ce fut donc, après ces nombreux jours-là, Vayamot, Melech Mitzrayim. Le roi d'Égypte est mort. Vayanchub ne Israël mina avoda. Les Bnei Israël n'en pouvaient plus de ce travail qui leur était imposé. Vayzaaku et ils ont crié. Vatal shavatam ela Elokim mina avoda. Et leur plainte est montée jusqu'à Elokim. C'est une plainte qui venait de cette avoda qui leur était imposée. Alors, si vous êtes bien attentif, si vous avez été bien attentif, vous devriez avoir remarqué que le verset n'apporte pas la preuve de ce qu'il dit. Le verset dit, on apporte un verset qui dit Manitzak el Hashem Elokei Avoteinu, c'est-à-dire le rédacteur de la Haggadah, il dit, on a crié vers Hashem, le Dieu de nos ancêtres, etc. Comme c'est marqué, mais c'est pas marqué du tout ça. Remarquez ça. C'est marqué qu'ils ont crié parce qu'il y avait trop de travail, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils n'ont pas, c'est pas marqué qu'ils ont crié vers Hachem. C'est marqué, eux, ils ont seulement crié. Ils ont crié, ils ont appelé maman, papa, ou je ne sais pas quoi, on n'en peut plus, etc. C'est tout. Mais ce n'était pas adressé à Hachem. C'est marqué que la plainte, elle est montée vers Hachem. Mais ce n'est pas marqué qu'eux l'ont envoyé vers Hachem. C'est Moshe Rabbeinu dans Sefer Dvarim, quand il raconte de nouveau cette histoire, quand il répète ça au Bnei Israël, là il dit, vous avez crié vers Hachem. C'est Moshe Rabbeinu qui valide, en quelque sorte, ce cri qui n'était qu'un cri. On a un cri vers Hachem, c'est-à-dire un embryon de prière, en quelque sorte. Il n'y avait pas de prière dans leur cri. Ils étaient tellement loin que c'est seulement... C'est un cri, on n'en peut plus. Mais ce n'est pas du tout un cri vers Hachem, sauve-nous. Ce n'était pas dirigé vers Hachem. C'est monté vers Hachem et Hachem a écouté. Il a écouté cette voix qui n'était même pas une voix de prière, en fait. Et quand il a entendu cette voix de souffrance, alors le pasouk dit « Vaizkor Elohim et Bruto ». Elohim s'est souvenu de son alliance avec Abraham. Il s'est souvenu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et du coup, Vayar, il a regardé. C'est pas qu'il ne voyait pas avant. Et le Vayar veut dire, Hachem a décidé de prendre en compte certaines choses. C'est-à-dire, les Bnei Israël, pour les faire réagir, il a fallu donner le fameux tour de vis dont on a parlé. Qui est le tour de vis en question. L'aggravation de la situation, pardon, c'était que l'intervention de Moshe Rabbeinu, une conséquence désastreuse, la situation qui était déjà très mauvaise, elle est devenue insupportable. Il fallait aller chercher la paille et ils n'avaient déjà pas de force. À ce moment-là, ils ont crié. Et donc, c'est ce cri-là qui a été, il faut dire, validé en quelque sorte. Par Moshe Rabbeinu et par Hachem, quoi, qui a décidé de, OK, on va prendre ça comme un cri, comme une prière, comme un appel au secours vers Hachem. Et puis, il y a ce, finalement, Hachem nous a sorti d'Égypte, et comme on dit, le fameux Loalide Malach, Loalide Saraf, Loalide Shaliach, et là, Kadosh Baruch Hu Bichvodo Batzmo. Hachem nous a sortis d'Égypte. Mais si Hachem avait envoyé un ange pour nous sortir, ou un envoyé, qui a envoyé Moshe Rabbeinu sortir, ça ne veut pas dire que ce n'est pas Hachem qui nous a sortis. D'accord ? C'est Hachem qui il a plusieurs moyens de nous sortir de là-bas, et il pouvait nous en sortir avec une révolution, avec un changement de dynastie, avec toutes sortes d'événements qui bouleverseraient, tremblements de terre, je sais pas, guerre ou tout, qui auraient pu entraîner la sortie d'Égypte. Mais là, ça s'est pas passé comme ça. La sortie d'Égypte, c'est Hachem lui-même qui est intervenu. Et ça, c'est fondamental, ça veut dire que il y a eu un moment, la sortie d'Égypte, c'est tellement important, ça joue un rôle tellement important que ça ne pouvait pas se faire à travers un intermédiaire. Il fallait qu'il y ait une relation directe entre le clan d'Israël et Hachem, entre Hachem et le clan d'Israël. Même Moshe Rabbeinu ne peut pas être l'intermédiaire en question. Cette dernière plaie, c'est la plaie qui va faire sortir. Le reste, c'est une démonstration de la puissance divine. Mais la plaie qui va faire sortir les Bnei Israël de Mitzrayim, là, c'est Hachem. Moshe Rabbeinu ne fait rien du tout là-bas. Rien. On sait très bien les conséquences tragiques du fait que les Bnei Israël ont considéré que c'était Moshe qui les avait sortis d'Égypte. C'est le veau d'or, c'est tout ce que vous voulez. C'est absolument terrible. Et justement, Hachem a fait très attention qu'il n'y ait pas... Et Hachem, il est simplement passé en Égypte et bon, sa présence divine a fait que toute l'idolâtrie, tout ça s'est effondré. Et les prorotes, comme il avait dit, les prorotes d'Égyptiens sont morts. Alors ensuite, il y a un travail, justement, pour un travail sur les makotes, et puis ensuite, et tout à coup, on parle aussi de makotes, il y a les fameuses makotes qui sont écrites dans la Torah, Mais on parle aussi de Makot dont nous n'avons absolument aucune idée. C'est les Makot qui ont eu lieu au passage de la mer. Au passage de la mer, il y avait 5 fois plus de Makot qu'en Égypte. On n'a pas la trace d'une seule. Il n'est pas marqué dans la Torah à aucun moment qu'il y a eu une Maka au passage de la mer. Il y a eu des tas de choses, des bouleversements, mais c'est pas mal. On ne présente pas ça comme une Maka, comme des Makot. Je vous dis, il y en avait 5 fois plus. Et après, il y a tout un travail qui est un travail des Amoraïs, des Tanaïm d'abord, mais Tanaïm, qui eux ont dit, mais si on y regarde d'un peu plus près, et c'est bien ce qu'il faut faire dans Yetziat Mitzrayim, si on regarde d'un peu plus près, même les makot qui sont décrites dans la Torah, en fait, elles sont décomposables. Chaque maka était en vérité une combinaison complexe de petites makot. 4 ou 5 makot. 4 ou 5 selon Rabbi Akiva, 4 selon les autres, 4 makot. Chaque maka, dame, c'était 4 makot ou 5 makot d'après Rabbi Akiva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux t'occuper de la sortie d'Égypte, si tu veux apprendre quelque chose, il va falloir aller regarder dans le détail. Parce que nous, on a souvent un problème, c'est que on a un regard global. Alors, on est sorti d'Égypte. Bon, d'accord. Mais si tu veux vraiment prendre une leçon de la sortie d'Égypte, il faut regarder cette sortie d'Égypte de toutes les manières possibles. Et c'est ce que les Chazal ont voulu nous dire quand ils nous ont dit, étant donné qu'il y a 4 verbes qui sont utilisés pour la sortie d'Égypte, alors on va boire 4 coupes de vin le soir du Seder. Ces 4 coupes font référence à 4 verbes, les 4 verbes qui sont utilisés dans le texte de la Torah pour parler de la sortie d'Égypte, pour parler du fait qu'Hachem nous a sortis d'Égypte. Ça veut bien dire qu'il ne faut pas considérer on est sorti d'Égypte. Mais il y avait un élément de libération, il y a un élément de rachat, il y a toutes sortes d'éléments, d'accord, qu'il faut prendre en compte si on veut bien comprendre ce dont il s'agissait quand on parlait de sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte n'était pas on est sorti. Pas du tout. Alors, le texte de la Torah, il ne nous dit pas grand-chose. Alors, il y a un travail dans la Haggadah, et c'est une espèce de travail minimal. Parce que au début de la Haggadah, on a vu que les Tanaïm, tiens, qu'est-ce qu'elle raconte tout à coup, j'ai dû me tromper. Je vais enlever ça. Les Tanaïm, ils étaient ensemble pendant toute une nuit à raconter la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils se sont racontés? Pensez bien que Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, etc., ils connaissaient un peu la sortie d'Égypte. De quoi ils ont parlé pendant toute la nuit? Toute une nuit, et en fait, ils n'avaient pas fini. Le matin, les élèves leur ont dit, c'est plus le Zman. Alors, je ne vais pas vous dire, j'y étais pas. J'aurais bien voulu être souris pour savoir ce dont ils ont parlé, mais j'aurais peut-être bon. De quoi on parle quand on parle toute la nuit et qu'on est, voilà. Alors, Ymir Tse Hachem, il y aura. Bon, c'est lundi soir, c'est ça? C'est prévu lundi soir? Alors il y aura cours lundi soir, Ymir Tse Hachem. Voilà, good Shabbos.
Good Shabbos.
Good
Shabbos, merci Rav.
Vous avez fini par entendre quelque chose ou bien pas du tout?
On a entendu quelque chose.
Malheureusement, entrecoupé quand même.
Ah bon? Pardon?
Entrecoupé quand même, beaucoup de choses qui ont été coupées.